Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.
Dans ce nouvel épisode de Franska podden, le podcast de l'ambassade de France en Suède, nous allons à la rencontre de Marie-Pierre Rixin, députée de l'Assemblée nationale et présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, à l'occasion de son déplacement en Suède en septembre 2021. L'interview est réalisée par Fabienne Roy, journaliste au Petit Journal de Stockholm.
En tout cas, merci de nous accorder cette interview pour lepetitjournal.com de Stockholm. Donc tout d'abord, j'aimerais revenir sur votre parcours. Si vous pouvez nous expliquer quel était le début de votre carrière.
Donc je m'appelle Marie-Pierre Rixin, j'ai 44 ans, j'ai deux enfants, je suis députée de l'Essonne. C'est mon premier mandat d'élue. J'ai donc été élue en 2017, il y a 4 ans. J'ai commencé ma carrière comme collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale pour un député qui s'appelait Jacques Barrot. Ça devait être en 2001. J'y suis restée un certain temps et puis ensuite je me suis redirigée vers la communication où j'ai passé le CELSA et j'ai travaillé donc pour une agence de communication sur notamment des enjeux de communication publique pour les collectivités locales. Et puis ensuite, je me suis mise à mon compte où je travaillais donc comme consultante de communication institutionnelle, notamment dans le milieu de la santé, de la périnatalité. Très globalement, c'était les sujets sur lesquels je travaillais jusqu'à donc mon élection 2017.
Très bien. Et justement, quels sont les objectifs de votre déplacement en Suède ?
Alors, l'objet de mon déplacement, il est essentiellement axé sur autour d'un acte que j'ai oublié de préciser en introduction, c'est que j'étais présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Donc c'est le cadre de ma visite s'inscrit dans le fait que je préside cette délégation. Et je travaille actuellement plus précisément sur les enjeux économiques, d'inégalités économiques entre les femmes et les hommes. Je suis l'auteur d'une proposition de loi qui a été discutée en mai dernier en France et qui a été votée à l'unanimité, qui devrait être discutée au Sénat en octobre et votée définitivement d'ici la fin de l'année, et qui vise à faire de la femme un sujet économique à part entière. Alors pourquoi la Suède? Pourquoi ma venue en Suède? Parce que parmi tous les sujets sur lesquels j'ai pu travailler dans le cadre de la préparation de ce texte et également dans le cadre d'une mission pour laquelle je travaille à la délégation aux droits des femmes, l'une des explications, l'un des points clés d'explication d'inégalité économique entre les femmes et les hommes reste la difficile conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des femmes. Aujourd'hui, il y a entre 8 et 10% d'inégalité de salaire à poste égal, salaire égal en France, et 25% d'inégalité de revenus. Quand je dis revenus, c'est à la fois le fait que ça concerne la retraite, ça concerne l'ensemble des revenus à l'échelle d'une vie, qui s'explique essentiellement par le fait que les femmes sont davantage au temps partiel, que d'autre part, elles travaillent dans des secteurs qui sont moins rémunérateurs que les hommes, donc tout ce qui est de l'ordre du care, par exemple, tandis que les hommes travaillent davantage dans des secteurs de porteurs et d'avenir. Elles s'accèdent moins aux postes à responsabilité également, et puis elles sont davantage en charge des enfants malades, les maternités également sont des ruptures de carrière. Mm-hmm. Donc tout cela mis bout à bout, il y a des inégalités de revenus. Donc j'ai porté ce texte et donc ça me permet aujourd'hui à travers ce voyage en Suède, c'est à la fois de comprendre comment ce changement culturel a été opéré en Suède en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, historiquement. Mm-hmm. De comprendre également ce qui a permis de faire advenir la taxation individuelle, l'individualisation de l'impôt en Suède, alors même que, de la manière que si nous le faisions en France, il y aurait des acquis, en tout cas familiaux, qui pourraient être perdus, mais gagnés par ailleurs. Et puis, effectivement, comment fonctionne et comment, quelles sont les conséquences positives pour les femmes, le congé parental, et à savoir notamment le congé paternité, le congé parental pris par les hommes en Suède. Alors même que, vous le savez, depuis le 1er juillet dernier en France, le congé paternité a été allongé de 1 mois jusqu'à 1 mois et que 7 jours sont dorénavant obligatoire.
D'accord, donc justement, ça introduit ma prochaine question. Donc, quel premier constat faites-vous entre la France et la Suède en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ?
Le premier point, c'est le fait que la maternité n'est pas un problème. J'ai presque envie de dire, au fur et à mesure des entretiens que je fais, la maternité n'est même pas un sujet, en fait. Quand je parle avec les entreprises, avec les syndicats, j'ai parlé avec beaucoup de monde, la maternité est un non-sujet. C'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte peut être recrutée, peut avoir son emploi, peut partir un an, revenir, reprendre son emploi. Alors qu'en France, c'est une grosse inquiétude pour les femmes et les jeunes femmes d'avoir des enfants tout en travaillant. Elles ont de grosses inquiétudes sur ce qui peut advenir durant leur congé maternité. Je pense par ailleurs très difficile pour un grand nombre d'entre elles de revenir travailler lorsque le bébé a seulement 10 semaines. Et il y a, par ailleurs, il y a une violence institutionnelle qui s'y ajoute, où on peut par exemple demander à des femmes qui font des travaux physiquement difficiles, eh bien, de continuer à les faire malgré le fait qu'elles soient enceintes. On va les faire culpabiliser. Enfin, il y a vraiment ce sujet-là qui me semble important. Et le deuxième point qui me semble également très important, c'est effectivement cette taxation individuelle qui, je crois, a permis vraiment, véritablement de faire des femmes des sujets économiques totalement autonomes et totalement émancipées, puisqu'elles ne sont pas... leur revenu n'est pas un revenu d'appoint, mais bien leur revenu à elles. Et ça me semble essentiel.
Très bien. Donc revenons en France. Quel bilan dressez-vous 10 ans après l'adoption de la loi Zimmermann imposant un quota minimal de 40% de femmes au sein des conseils d'administration et de surveillance ?
Alors le bilan, il est clairement positif. Nous l'avons dressé à la délégation aux droits des femmes. Le bilan, c'est qu'en effet, il impose 40% et nous sommes à 46% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. Que par ailleurs, ça a permis de, tout en féminisant les conseils d'administration, de les professionnaliser. Puisque antérieurement à cette loi, il s'agissait d'un réseau d'hommes entre eux qui se cooptaient. Or là, il a fallu, entre guillemets, trouver des femmes, et des femmes compétentes, évidemment, il y en avait beaucoup, il suffisait juste de pouvoir les identifier. Donc les entreprises ont fait appel à ce que l'on appelle communément des chasseurs de tête, et donc ça a permis de professionnaliser également le profil des conseils d'administration. Donc ça a amélioré la gouvernance des entreprises. C'est un bilan que tout le monde s'accorde à dire. En revanche, cette loi devait permettre une féminisation des instances de direction des entreprises, et non pas de la gouvernance. Or, aujourd'hui, nous ne sommes toujours qu'à 18% de femmes dans les comités de direction, en moyenne. Certaines entreprises peuvent aller à 30 ou 36, mais, voire même 50, mais en moyenne, on est à 18%. D'où l'intérêt, effectivement, de la loi la proposition de loi que j'ai pu déposer, qui impose en effet des quotas également dans les instances de direction.
Mmh. Donc effectivement, vous avez souhaité aller plus loin en déposant en début d'année cette proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Quelles en sont les grandes lignes ?
Alors cette proposition de loi s'articule autour de 5 grands piliers. Le premier, c'est de faire en sorte, vous savez qu'en France, les femmes peuvent ouvrir un compte en banque et travailler sans l'autorisation de leur mari depuis 1965, ce qui me semble moins être une loi très totémique en fait, hein, de l'indépendance économique des femmes. Et je me suis rendu compte au fur de mes réflexions que le revenu des femmes, qu'il s'agisse d'allocations sociales individuelles d'un salaire, d'un revenu, pouvait être versé sur un compte tiers, un compte dont elle n'était pas titulaire. Donc ça pouvait engendrer des captations de revenus, des violences économiques. Donc je souhaite à travers ce texte que à la fois les prestations sociales individuelles et les salaires soient versés sur un compte bancaire dont la femme est titulaire ou co-titulaire. L'idée ensuite est de faire en sorte que les femmes, toutes les femmes, puissent accéder au marché de l'emploi. Je suis absolument convaincue que le travail est une source d'émancipation, une garantie également d'autonomie économique. Or, certaines femmes... Par exemple, des femmes qui pouvaient être, entre guillemets, au foyer, qui n'avaient pas acquis de droit à la formation, eh bien, l'idée étant que maintenant, même si elles n'ont pas acquis de droit à la formation, qu'elles puissent suivre une formation indépendamment de cela et réintégrer le marché de l'emploi. Ce qui va de pair avec ce sujet-là, c'est évidemment la garde des enfants pour celles qui ont des enfants en bas âge. Et donc, contrairement à la Suède, les femmes qui sont en recherche d'emploi n'ont pas une garantie de place en crèche. Donc, l'idée étant de prioriser notamment les femmes en situation de monoparentalité pour l'obtention d'une place en crèche. L'idée était également, vous le savez, les femmes sont seulement 28% dans les écoles d'ingénieurs. Or, les métiers de demain, les métiers qui vont compter, sont des métiers technologiques, des métiers scientifiques, des métiers qui vont travailler sur les enjeux écologiques. On va bientôt parler des enjeux écologiques dans les mois à venir. Et il faut que les femmes soient autour de la table, soient décisionnaires et le pouvoir également sur le plan écologique. Or, l'ensemble de ces métiers aujourd'hui sont essentiellement occupés par des hommes. Donc, il est essentiel aujourd'hui que les écoles et les établissements d'enseignement supérieur analysent de manière très précise, selon des critères, soient évalués sur à la fois les biais genrés qui pourraient être développés à l'intérieur de ces écoles et la lutte contre les biais genrés et les stéréotypes, mais également différentes solutions très pragmatiques qui permettraient de lutter contre cela. Et puis les deux derniers axes sont à la fois donc le quota dont je vous ai parlé, mais également de permettre donc toujours de faire en sorte que la femme soit un sujet économique à part entière, puisse faire en sorte que les femmes aient accès plus facilement au financement pour monter leurs entreprises, qu'il s'agisse de TPE ou de start-up. Aujourd'hui, la BPI en France finance seulement 2% d'entreprises dont la gouvernance est uniquement portée par des femmes, 18% dont la gouvernance est portée par un homme et une femme, et le reste financé par des entreprises sont uniquement gérées par des hommes. Donc on voit qu'il y a des difficultés. On sait à quel point les comités d'investissement ont évidemment un rôle à jouer dans la décision des montants accordés. Et donc il faut que ces comités d'investissement soient paritaires, de manière à éviter les biais genrés. On ne pose pas les mêmes questions aux femmes et aux hommes, notamment lorsqu'ils souhaitent lever des fonds. Une femme, on va davantage l'interroger sur les risques qu'elle prend et les risques qu'elle fait courir à ses associés, tandis qu'un homme, on va davantage l'interroger sur les bénéfices, les opportunités qu'il va créer. Donc nécessairement, les réponses ne sont pas les mêmes. Et donc voilà, donc l'idée étant de lutter contre ces biais genrés, donc à la fois donc imposer au comité d'investissement de la BPI 30% de femmes, et dans les comités d'investissement entre guillemets privés, juste de faire en sorte qu'ils aient en tête dans les comités d'investissement d'avoir une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Voilà l'ensemble des sujets sur lesquels nous avons travaillé et qui ont été adoptés.
Pour conclure cet entretien, que retiendrez-vous de votre séjour en Suède ?
Alors pour l'instant, je suis à mon deuxième jour, donc j'ai encore quelques jours à venir. Mais d'abord, la chaleur de toutes les personnes que je rencontre, ils sont extrêmement disponibles et en tout cas ouvertes pour pouvoir échanger avec moi et partager leurs expériences. L'accueil évidemment de l'ambassade de France qui a permis à ce séjour de se dérouler et je remercie notamment Eric Trottmann qui est présent ici, à la fois de la diversité des entretiens et la composition des journées qui sont proposées et puis la disponibilité pour pouvoir me faire connaître des petites anecdotes sur l'histoire de la Suède.
Très bien, merci beaucoup, merci Marie-Pierre, pour cet entretien.
Avec plaisir.